Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 1er avril 2025. Vous écoutez le 28e épisode de la saison 8 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% sneakers au monde, animée par toute l'équipe de Sneakers Empire. Qui met de la culture dans tes baskets. You will not be able to change the channel.
Money's gotta be the shoes.
Shoes,
shoes,
shoes.
You sure it's not the shoes?
Do you know, do you know, do you know?
Yeah, 1, 2, 1, 2.
You know how I do.
Yo, what up? This is A1. And I'm chilling on Sneak On Air, man. It's the one and only radio show 100% talking about sneakers in the world, hosted by Sneakers Empire. Every Tuesday, 8 p.m. to 9 p.m. on RBS 91.9 FM. Chill, don't sleep.
That's right. Look, Mom, I can fly.
Yo, man, your Jordans are fucked up.
Sneak On Air, épisode 28, saison 8. Bienvenue dans notre émission pour un nouvel épisode où nous allons nous plonger dans l'hiver d'une marque qui a su s'imposer aussi bien sur les sentiers de trail que sur le bitume des grandes villes. Il s'agit de Hoka One One. Mais avant cela, nous allons avec vous décrypter l'actu et les dernières sortie sneakers de la semaine. Alors à toutes et à tous, bienvenue dans ce 28e épisode de la saison 8 de Sneak On Air. Au programme ce soir, notre traditionnel, qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio, l'info, l'actu des baskets qui sortent cette semaine et notre zoom autour de la marque Hoka avec la présence très satisfaisante de notre ami Jacques Chassin qui est dans la place. Salut Jacques, comment vas-tu?
Salut, ça va bien, merci pour l'invitation.
Ouais, ben on est ravis, t'as pas besoin d'être invité, t'as toujours ta place.
La présence satisfaisante, on verra plus tard. Hein.
Ouais, on fera le bilan
au
retour.
On fera le bilan à la fin de l'émission. Donc, voilà.
C'est clair. Il est là, je sais pas si t'étais là la semaine dernière, si je crois.
Si, j'étais là.
J'ai dit même crevé, et je sais pas si t'es crevé, mais en tout cas, il est là, Ghislain est dans la place.
Ouais, salut tout le monde.
T'as la forme, Gis?
Ça va, j'ai fait la sieste avant de venir, donc une petite pidée pour se motiver, et on est reparti.
Et c'est parti. Le reste on dit pas. Et voilà, on embrasse très fort Jaime, grosse dédicace, il est pas là ce soir et c'est Krish qui s'y colle un petit peu. Comment ça va Krish?
Salut tout le monde, ça va et toi?
Ouais, et il se colle à quoi? Il se colle un petit peu à la story.
Ouais, parce que c'est un peu bizarre comme il se colle à sans fin.
À Ghislain. C'est lui qui anime la story Sneaker67 Empire sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver. Et on a notre recrue, la plus jeune recrue de notre émission, il est dans la place, c'est Abby. Salut Abby.
Salut, ça va?
Et toi?
Très bien.
Ouais, la forme?
Ouais, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps, t'étais attiré par le thème?
Ouais, ça va.
Ouais, ça va. Ça fait rabais, mec, il y a des gens qui nous écoutent, ils ont envie...
Ah non, il est bien le thème.
Ah,
il faut essayer de trouver exactement le moment où il n'y a pas trop court, où il faut trouver...
Parfait.
Où finir à 17 pour pas trop attendre dehors.
Exactement. Voilà. Exactement. Et ben voilà, je vous propose qu'on attaque avec le qu'est-ce qu'on porte ce soir dans le studio. Ben je vais m'adresser d'abord à Ghislain, parce qu'en fait j'ai pas regardé tes pieds tout à l'heure quand tu nous as rejoint.
Yes.
Tu portes quoi ce soir?
Pour essayer d'être dans le thème, je me suis dit je vais venir avec des chaussures de running et j'ai donc ma paire de Nike Downshifter 3.0 je crois. Noire, blanche, très confortable. Mes chaussons comme je les appelle.
Ouais, tu kiffes?
Ouais, ouais, non. Encore une fois, je les ai mis juste là de marcher 2 minutes. J'ai fait, ouais, purée, il faudra que j'achète presque que ça, en fait, des trucs comme ça, tu vois.
Il n'y a pas de micro.
Alors, tu me demandes si c'est plus confortable que des Ultra Boost. Je dirais pas jusque-là, quand même. Mais c'est assez sympa.
T'as porté du Boost?
J'ai testé. Parce que vous en avez quand même parlé plusieurs fois. Et des fois, je vais à Footlocker. Je me fais des kiffs, tu vois. Je tente 2-3 trucs.
Pour être à jour.
Et c'est vrai que l'Ultra Boost, ouais, ça faisait un moment que je voulais la tester. Je me suis dit, vas-y. Et j'ai fait 2-3 marches et tout, au Footlocker et tout. Mais ouais, rien à voir.
Est-ce que tu fais comme les petits, tu sais, quand ils essayent des baskets, ils courent dans le magasin comme
oui,
ça pour
tester. Oui, exactement, non, je fais des allers-retours comme ça et tout.
J'adore.
Ah oui, il faut tester.
Ouais, c'est classe, c'est classe. Et toi, Krish, tu portes quoi? Je crois du Boost.
Ouais, je suis resté dans le thème running, mais quand j'ai vu la paire de Jacques, je me suis dit que merde, j'aurais dû mettre plutôt ce qu'il avait au pied, parce que je l'ai aussi dans un autre coloris. Je porte une Ultra Boost sur une collaboration avec Parler. Donc voilà, coloris kaki avec un lassage un peu différent. Donc la version que j'ai, on va pas spécialement la mettre pour courir, à mon avis, du haut lassage. Et en même temps, je suis pas spécialement fan de l'Ultra Boost pour courir, parce que pour moi, c'est un modèle qui est un peu trop dynamique, avec un retour d'énergie et un peu trop important. J'ai besoin de plus de stabilité, donc c'est pas une perte pour moi, en tout cas en termes de course. Donc voilà.
Très bonne analyse, et tu fais bien de zoomer un peu là-dessus, parce qu'on va parler d'Amorcy.
Exactement.
On va parler de la marque Oka One One dans quelques instants, après avoir fait le tour de qu'est-ce qu'on porte des actus. On zoomera sur cette marque qui est vraiment pas mal. Bah Jacques, je pense qu'il t'a fait un beau passage de relais. On aimerait savoir ce que tu portes. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une nouvelle silhouette Adidas.
Moi aussi, je porte du running, mais ce n'est pas du Boost. C'est une des dernières Adi Zero qui n'est pas faite ou construite avec la matière Boost, mais en EVA, donc un EVA très léger et très absorbant aussi. Et je trouve que c'est très agréable comme chaussure. Une certaine stabilité aussi, et moi, un peu ce côté, ce feeling un peu de naviguer.
Ouais.
Par rapport à la matière Boost.
Et elle est toute blanche.
Alors elle est blanche, elle a des bandes noires et puis il y a une touche de rouge aussi avec. Bon, c'est un peu un coloris, un peu, je dirais, un peu passe-partout, quoi, mais c'est pas mal.
Ouais, mais le petit rouge relève la paire. Hein. Je trouve que ça fait un petit détail. Je crois qu'elle a la particularité d'avoir les bandes qui descendent un peu sur la semelle.
Bah, les bandes sont déjà ne sont pas placées à l'endroit traditionnel.
Tu peux dire au bon endroit.
Elles sont placées un peu plus vers l'avant.
Ok.
Et disons ça reflète un peu le dynamisme qu'on veut donner quand on parle de running, on parle de vitesse, on parle de dynamisme. Et bah, c'est un peu le côté visuel de l'emplacement des trois bandes qui accentue un peu ce feeling qu'on veut donner à une chaussure de running.
Alors, ça me fait venir une question à propos de ces trois bandes. Il y avait une règle sur le placement des trois bandes dans le design du footwear ou on pouvait les faire plus ou moins bouger?
Non, il y avait au départ une règle sur le placement des trois bandes, c'est-à-dire qu'elles étaient surtout placées au niveau
du flanc,
sur le côté. En anglais on dit instep, c'est-à-dire à hauteur du coup de pied par exemple.
Ah oui, voilà.
Parce que ça c'était le placement traditionnel de l'époque où, quand Adi Dassler a créé les premières chaussures, il les a placées à cet endroit parce que finalement ces trois bandes avaient une fonction qui était donc elles étaient placées au niveau du serrage, du lassage, et ça permettait de renforcer ce côté-là quand on serrait les chaussures, donc ça évitait à la matière sur les côtés de se détendre. C'était un renfort.
C'est un renfort qui partait de la semelle,
voilà,
jusque
qui rejoignait le lassage, et donc en tirant sur le lassage, donc on emprisonnait en quelque sorte le pied au niveau du coup de pied, et justement ces renforts, ces trois bandes servaient de renfort pour éviter que la matière à cet endroit se détende.
Parce que les trois bandes ne sont pas un logo de base.
Ah, chez
Adidas, c'est un procédé technique.
Bah, au départ, c'était pas trois bandes. Hein. Au départ, c'était plusieurs.
Plus.
Quand on prend par exemple le catalogue de 1949, hein, le premier catalogue Adidas, il y avait des chaussures avec 4 ou 5 bandes, etc., en cuir, etc. Donc c'était plutôt une fonction de renfort avant de devenir après une identification de la marque.
Et je cherche une marque qui utilisait aussi des bandes comme ça. Et je crois qu'au tout début, il n'y avait pas une autre marque.
C'était une marque finlandaise, pardon.
C'était Karoo, non?
Exactement.
C'est le nom qui m'est venu.
Et en fait, il semblerait que la marque ait été rachetée pour deux bouteilles de whisky.
Ah oui.
Une petite somme d'argent. Donc voilà, c'est comme ça que.
Et rachetée par qui?
par Adolf Dassler à l'époque.
Ah, à l'époque, ok.
Ouais, donc il a négocié une somme, plus deux bouteilles de whisky pour racheter...
Il a dû faire boire les deux bouteilles de whisky. Alors, et
je
après
sais pas, c'est ce que disent les rumeurs, mais effectivement, il y a eu une histoire comme ça. Où là,
je savais pas que Caro avait appartenu à Adidas.
Ils ont pas... Alors, attends, on revient et on remet du contexte, parce que t'as tout mélangé là. En fait, trois bandes étaient utilisées par cette marque finlandaise.
Ok, finlandaise. Il a racheté le procédé.
Il a racheté l'utilisation et le droit d'utilisation des trois bandes.
Donc, c'est ça qu'il a.
Mais Caro n'a pas été racheté par Adidas. C'est juste que j'avais besoin des trois bandes. Tiens, deux bouteilles de whisky plus X euros. Est-ce que tu veux bien me les donner, s'il te plaît?
Ils ont tué le poisson dans le.
Non. Elle commence pas. Si c'est pour raconter des trucs comme ça, laisse le micro aux adultes.
Ils ont empêché qu'elle soit.
Qu'elle appartienne.
Exact. Couper l'herbe sous le pied. Exactement.
Et voilà. Bravo.
Et je cherche ton expression, mais elle me revient pas. Mais il y en a une qui dit ça, ouais.
Mais il faut dire une chose, c'est que même encore maintenant, les trois bandes, par exemple, on ne peut pas les protéger au niveau fonctionnel.
D'accord, en termes de brevet.
Oui.
Bah oui, si demain Zara décide de mettre trois bandes parce que l'utilisation de la chaussure, ou du moins la chaussure a besoin de trois bandes pour tenir, bah ils mettent trois bandes, quoi.
Mais on peut elles sont protégées au niveau identité de la marque. Donc c'est ça qui fait un peu le
Exactement.
Problème. Vous avez des marques qui sont sorties avec des textiles avec des simili trois bandes. Mmh. Donc si c'est identifié à la marque, on n'a pas le droit de les utiliser.
On n'est pas sur le mode fonctionnel. Très intéressant. Et toi, Abby, tu portes quoi?
Moi, je porte des Jordan 1. Classique hide bleu et noir.
Ouais, la réédition de la Royal en matière Nubuck.
Exactement.
Et tu kiffes.
Ouais, moi j'adore.
Voilà, pour tout le monde a dit.
Non, pas toi.
Ah non, moi j'ai pas dit. Alors, je me suis...
Surtout que moi je veux savoir. Je les ai vus dès que je t'ai
tu
vu.
Tu les connaissais pas?
Je crois que je les avais jamais vus.
Je les mets de temps en temps.
En tout cas, elles sont top.
Merci.
Mais je veux bien savoir. Qu'est-ce que tu portes, Alex?
J'adore quand t'es là. Je porte une Jordan 6 qui a été éditée il y a 2-3 ans en collaboration pour le Quai 54. Il y avait deux coloris, un qui s'appelait Baroque Maroon et un peu violet. Là, j'ai le coloris violet. Mmh. À la particularité de retrouver le Nike Air sur le pied gauche et le logo du Quai 54. Et il y a souvent des collabs assez sympas autour de ça.
Tu peux nous dire pourquoi le coloris violet? Parce que c'est un peu atypique, violet. C'est pas souvent que...
Alors, j'aurais dû mieux préparer l'émission. Non, c'est le choix un peu des colorways, parce que souvent, le K54, ils font des liens avec l'Afrique. Il y avait des trucs comme ça. Et là, c'était un peu...
T'as mal compris ma question. J'ai dit, pourquoi toi, t'as choisi de porter une...
Ah, du violet. Ben, à cause de nos derniers clics. Merci pour la perche. Parce qu'il y a une super collab qui est sortie chez Decathlon, et Chris chez moi-même avons craqué sur deux, trois pièces. Tu veux en parler vite fait, la collab?
Je sais, non, enfin oui,
parce que j'ai du mal à dire le nom du monsieur.
Le designer?
Ouais.
Bah, t'as pas ta casquette là?
Dans mon sac. Tetsunori.
Exactement. Donc, c'est un designer et un artiste japonais. Donc, grosse collab entre Decathlon et cet artiste japonais. C'est la deuxième fois que Decathlon cette année nous sort une collab de fou. Puisque ils avaient fait une collab avec Starco il y a quelques mois. Et là, sur cette collab, donc il y a pas mal d'items qui sont sortis. En l'occurrence, deux paires de chaussures, deux t-shirts pour hommes, un t-shirt pour femmes, deux pantalons. Ils ont aussi des accessoires. Donc moi, j'ai acheté le plaid. Donc, ce qu'ils appellent le plaid, c'est ce petit truc là qu'on met par terre pour les pique-niques.
Ça, c'est pour l'NL Contest.
Exactement. des tote bags, des casquettes,
gilets.
Chaussettes, gilets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un travail qui est quand même assez incroyable, je trouve, en termes de matériaux, des coloris, et à des prix Decathlon, quoi. Donc, ouais. Le t-shirt à 14,90.
Casquette à 17 balles.
Exactement, la veste à 39,90. Et pareil, c'était hyper quali, super bien coupé, finition nickel, matériaux nickel. Donc c'est ce qu'on aime chez Decathlon, c'est que rapport qualité-prix imbattable et surtout qualité de fou, quoi.
Ouais, non, franchement, et aujourd'hui
on est très content.
On est quasi habillé pareil.
Exactement.
Voilà, donc moi j'ai pris du violet. Merci Abby pour cette perche très bien vue, qui était assortie justement à cette casquette et à l'outfit de chez Decathlon. Donc K54 Jordan 6. Et ben voilà, je vous propose de passer à l'actu avec un fait qui m'a questionné, que j'ai vu apparaître pendant le week-end en préparant l'émission de radio. Il a été annoncé à nos amis australiens la fin du Nike by You, anciennement le Nike ID. Et aujourd'hui, on l'a dit qu'après le 7 avril, ils ont que jusqu'au 6 pour recevoir leur commande et qu'après, il n'y avait plus de Nike ID auprès des Australiens. Alors ça me questionne un peu et je me demande pourquoi. C'est vrai que moi, j'avais eu une première intuition qui était ils veulent arrêter le programme, c'est compliqué, etc. Et j'ai trouvé ta remarque, Krish, hyper intéressante. Parce qu'elle doit aussi rentrer en ligne de compte.
Ouais, moi je pense que c'est une histoire de coût, une histoire d'argent encore une fois, puisque quand tu regardes géographiquement où est-ce que située l'Australie, je ne suis pas sûr que même si c'est à côté de l'Asie, la Chine, que ce soit beaucoup moins cher à finalement envoyer, puisque finalement le volume de produits que tu envoies en Europe et aux États-Unis est largement supérieur que ce que tu vas envoyer en Australie. Et après, c'est pareil, comme le programme By You, finalement, tu es un peu dépendant de chaque consommateur qui doit faire et créer sa paire. Et en gros, si j'ai une bêtise, mais dans toute l'Australie, tu as 4 clampins qui décident de faire une paire. Donc ça veut dire qu'ils doivent finalement peut-être affréter quelque chose pour envoyer ces 4 paires. Et donc en termes de rentabilité, je suis pas sûr que ce soit optimal, quoi.
Du coup,
c'est ma lecture, je sais pas.
Le Sneakers by You, c'est toi-même qui crée ta sneaker sur un
ouais,
modèle.
Tu pars d'un modèle et tu peux pouvoir choisir. Et justement, c'est la question débat que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous préfériez chez Nike ID, Nike by You? Pouvoir choisir les modèles, choisir des matériaux, des colorways. Moi, j'ai quelques éléments de réponse, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça sympa.
Alors, moi, ce que j'ai toujours apprécié, c'est, je vais pas mentir, c'est passer du temps à créer des paires.
Ouais.
Tu squattes sur le truc, tu tentes des trucs, des combinaisons. Là. L'une des fonctionnalités que j'aimais vraiment beaucoup, c'était le choix des matériaux. Et je crois que c'était ça le plus intéressant, de pouvoir tester différents endroits de la chaussure, d'autres types de matériaux pour voir quel effet ça pouvait faire. Même si, pour moi, ça reste quand même quelque chose, enfin une application, un site comme vous voulez, assez frustrant parce qu'on n'a pas accès à tout en fait, c'est ça. Et quand on voit genre une paire qui sort et on se dit purée, si vous m'aviez donné ce rouge là pour la faire en Acadie, je l'aurais fait. Mais bon, c'est normal, c'est le business, c'est le jeu quoi.
C'est exactement ça, parce que moi c'est ça qui me frustrait, c'est que des fois t'as pas réussi à avoir une paire et tu veux essayer d'en faire une ressemblante et en fait t'as quelques limites qui fait que t'as pas forcément pile le bon colorway ou la bonne matière,
le bon endroit pour mettre la couleur que tu veux.
Exactement, mais il y a quelques, c'est une sorte de custom plutôt sympa. Et par contre, à la concurrence, j'ai pas l'impression que ça existe beaucoup. Je sais que tu peux personnaliser une basket chez Adidas,
ouais,
mais en notant un nom, un prénom, des lettres, des choses comme ça.
Après, ce programme a existé chez Adidas, hein, il fut un temps.
Ah ouais,
hein. Ouais, il a existé. Hein. C'était My Adidas à l'époque.
Moi, je me souviens de ça. Je savais pas que ça existait plus du coup.
Ouais, parce que moi, je me rappelle des superstars avec les feux.
J'avais fait un concept pour ça, pour le My Adidas aussi. Mais bon, ces concepts, c'est toujours pareil. Hein. Il faut voir la rentabilité à la fin. Donc, il y a beaucoup de marques qui l'ont abandonné parce que c'était beaucoup trop cher et donc finalement pas rentable. Et je ne sais pas, ce Nike ID existe encore en Europe ?
Ouais, Nike by You, ouais. Tu peux. Alors, ils ouvrent des sessions, tu vois, c'est pas toute l'année, tout le temps.
D'accord.
T'as des sessions et ils vont centrer sur quelques matériaux différents ou des couleurs spécifiques. Dans mon souvenir, les dernières, c'était plutôt des trucs, comment on appelle ça, des peaux de reptiles et des outils comme ça que t'allais pouvoir utiliser. Mais ils te limitaient à ça. Et des fois, il y a 2-3 innovations sur des choses réfléchissantes. En tout cas, voilà, je voulais juste relever le fait que le Nike by You s'arrêtait en Australie.
Nike by You, c'est un peu comme chez B4B, mais en moins poussé que chez B4B, où tu choisis ta paire de...
Non, là, c'est vraiment toi qui fais tout. Oui. Alors, chez B4B, eux, tu vas choisir le colorway de ta basket, mais c'est eux qui ont déjà présélectionné les couleurs que tu vas faire. Là, tu pourrais changer la couleur de ta virgule, la couleur du mudguard qui se trouve devant, du liner intérieur, de ta semelle de contact.
Et
tu peux aussi un petit peu tout varier.
Et c'est sur les modèles prédéfinis. Par exemple, il y a l'Air Force One, des choses comme ça.
Ouais, t'en as pas mal. Il y a la Dunk aussi, mais toujours limitée, tu vois. Pendant longtemps, j'avais pas de Dunk Wu-Tang. J'ai essayé de faire le jaune Dunk Wu-Tang, il n'existait pas.
Voilà,
c'était impossible. C'était impossible.
Et au-delà du jaune, t'avais pas le logo, hein?
Oui.
Mais ça s'arranger pour le logo.
On connaît une bonne brodeuse qui aurait pu me le broder. Ça vous va pour la petite actu? J'ai sélectionné quelques paires qui sortent Et je suis assez étonné, je trouve qu'il y a beaucoup de collabs. J'ai vu les fringues qui vont sortir avec cette collab Adidas Superstar en collaboration avec Bape. Sur le, j'ai sélectionné le modèle white, t'as un modèle bleu qui sera sorti d'ailleurs au jogging Bape Adidas avec les trois bandes. T'as un super suite avec la capuche requin. Et là, c'est une Bape Adidas sur une Superstar. On va retrouver l'embossement des petits singes.
Oui, c'est ça. C'est un gorille, je crois.
Ouais, exactement. C'est un gorille.
Je crois que c'est un gorille. Ouais.
Comme on l'avait retrouvé sur la dernière Stan Smith, full white et noir qu'ils avaient faite. Et là, très intéressant, il me semble pas sur l'ancienne Superstar, je sais pas, Chris, je vais me dire, sur la camo. Est-ce qu'il y avait déjà le logo Bape qui se retrouve sur le flanc?
Oh, il y a déjà le logo.
Ah
Bape.
Oui,
moi je l'ai, mais en fait
c'est
le logo...
sur la Stan qu'il n'y a pas le logo.
Exactement. Donc sur une paire, elle est à l'intérieur et sur l'autre paire, elle est à l'extérieur. Mais tu vois le logo Bape.
Ouais. Ouais. Et là, j'ai même l'impression, si vous regardez bien la photo, peut-être Jacques pourra nous confirmer, qu'on est presque sur l'ancienne forme de la Superstar, parce que le, je sais pas si on dit un heel tab, tu vois, le ce qui protège le tendon d'Achille est beaucoup plus bas que sur beaucoup de superstars. Il est quasiment à l'identique de la Superstar Made in France qui a été fabriquée chez Echong il y a quelques années.
C'est complètement ça, effectivement. Le
t'as vu cet œil, mec?
Ouais, c'est beaucoup.
Ça fait rigoler, Jacques.
Surtout, vous voyez pas la qualité du script pour remarquer ça.
Je vous ai dit de le télécharger parce que j'avais pas de couleur.
Non, mais je l'avais vu. Et après, tu le vois aussi sur cet empiècement là. Je sais pas comment il s'appelle, l'empiècement qui est à l'arrière, celui
ouais,
qui est.
Il est moins grand.
Il est moins grand. Il est beaucoup plus affiné. Et même au niveau...
ce qu'on appelle le Soft Protect.
Exactement.
Bah, ça, c'est l'original. Hein, ça, c'est,
ouais.
C'est, après, c'est devenu un peu plus la moustache, comme on l'appelait.
Mm-hmm. Ok, il y avait même des... Oui, tu as tout à fait raison, ça, tu le découvres, ça fait une moustache.
Mais c'était... C'est devenu la moustache avec la hauteur un peu accentuée et puis un angle bien défini parce que ça permettait la liberté du tendon d'Achille. C'est-à-dire que plus la pièce à l'arrière, comme celle-là maintenant, était basse, et moins il y avait cette liberté du tendon d'Achille. Donc voilà. Donc on peut faire toute une théorie sur la géométrie du soft protect, qu'on appelle soft protect, ou qu'on appelle soft protect, ou heel tab aussi, pour justement augmenter la liberté du tendon d'Achille.
Plus c'est bas, moins t'étais libre de ton... Mais c'est vrai que c'est un endroit qui blesse souvent, hein, quand la chaussure est trop rigide,
voilà.
Ça fait super mal.
Horrible. Et souvent, il y avait des problèmes, parce que si les matériaux utilisés pour cette pièce-là sont trop
rigides,
finalement, ça peut blesser et gêner vraiment le tendon d'Achille. Et là, une petite anecdote, je me souviens de Zinedine Zidane. À l'époque, à un moment donné, il avait un modèle, il était venu nous visiter en Allemagne, et il m'a montré sa chaussure, et il avait carrément coupé la pièce derrière, parce qu'il a dit, je peux pas la garder, elle est trop dure derrière, ça me dérange. Et donc, il avait carrément coupé la pièce entièrement.
Et après, on adapte. Ouais,
ça alors que c'était l'utilisation, la fonction essentielle, c'est aussi pour protéger contre les coups de pied, par exemple, protéger le tendon d'Achille.
Génial. J'adore les anecdotes.
Ouais, c'est trop bien.
Et qu'est-ce que vous en pensez alors de cette Superstar? Moi, j'avais beaucoup aimé le principe de l'embossement.
Ouais, j'aime bien le coloris blanc. Je suis moins fan du bleu.
Non, le bleu, il est pétant.
Le bleu, il est bien, bien électrique. Et en plus, il n'y a pas forcément de pièces bleues dans la collection textile. Donc c'est ça qui est très étrange.
Si, il y a le jogging qui va entièrement avec.
Ah oui, c'est la seule pièce, pardon.
Ouais.
Ouais. Parce que sur les autres, on est plutôt sur du gris et rouge.
Ouais, noir rouge.
Noir gris rouge. Ouais. Donc ouais. Pff, ouais. Non, ça va. Franchement, elle est jolie. Maintenant, ça reste une Superstar. Je suis pas sûr de le cliquer, quoi. Même si j'aime bien Bape.
Ouais. Et t'as déjà la camo, qui exactement. Est quand même la plus classique, quoi.
Moi, j'aurais toujours un problème quand même avec leur logo, j'arrive pas.
T'arrives pas le gorille l'étoile, je suis d'accord. Elle est
j'y arrive pas. J'adore Bape, hein, vraiment, en plus même les collections de vêtements là qui va sortir. J'adore tout magnifique. Ce qu'ils font niveau vêtements, ça y a rien à dire. Toutes les baskets qu'ils font, le shape est bien souvent parce qu'ils reprennent un shape déjà connu.
Ouais,
mais c'est vraiment cette grosse étoile un peu, pour moi, faite au marqueur. Moi, personnellement, c'est pas mon truc.
Et là, c'est vernis en plus.
Ouais, voilà.
Voilà. En plus, la campagne de com, elle est pas mal, je trouve. Tu vois, c'est un peu sombre, c'est un peu dark, presque une espèce d'univers Batman, un peu, tu vois, très très japonisante, nickel.
À retrouver sur l'application Confirm, mais ça sort le 4 avril. Rapidement, si on essaye d'avancer vite.
Après, on peut toujours décoller l'étoile et remplacer par un autre logo. Hein. Ça n'empêche rien.
Voilà, bonjour.
Tu vois pourquoi faut pas lui donner la parole.
C'est incroyable ça.
Voilà, et après c'est papa, tu peux m'aider à défaire le logo. C'est toujours comme ça que ça termine. Voilà, j'ai choisi une paire qui sort aussi le 4-4, donc dans 3 jours. C'est une collaboration donc avec la marque dont on va parler aujourd'hui, Oka One One, et la marque de luxe italienne Marni, qui viennent de dévoiler leur collaboration avec sur une basket B3 SL qui est la Bondi de chez Oka, où là on aura une chaussure, donc on retrouve la classique semelle des Oka assez grosse, assez épaisse, plutôt en banane, mais on va zoomer tout à l'heure dessus, et là on a une boîte vieillie, assez bien travaillée, avec plein de colorway. Donc sur le noir et blanc je vois pas, mais je sais qu'il y a du noir, du rouge, du gris, du jaune, du bleu, et ouais, je trouve que ça a une petite gueule, ça ressemble à l'univers d'Oka, et j'ai trouvé ça assez, ouais, la bleue est assez jolie, le rouge un peu plus pétant, mais je trouve ça assez, assez original, plutôt luxe, parce qu'on est quand même à 395€,
c'est pas donné,
c'est un peu moins notre style, mais on est sur ces grosses paires un peu chunky, et si vous voulez, l'effet de la paire en haut, on dirait qu'elle est un peu matelassée.
Ouais, ça fait une doudoune.
C'est exactement c'est
vraiment doudoune.
Ça dégage.
Hein, c'est moche.
Ça dégage. Non, moi j'aime trop.
C'est vrai ?
Parce que j'ai l'impression que je vais être trop comfy à l'intérieur.
Non, mais ça, à la limite, tu vois, dans ton job... Là, je te verrais bien en cuisine avec.
Tu vois, par exemple,
tu vois,
moi dans ma tête,
large.
J'y réfléchissais quand je vais promener le chien ou quelque
Exactement.
Chose comme ça, tu vois. Pas pour sortir, pas pour soirée, pas pour faire le beau, mais par contre, je pense que tu dois être trop bien dedans.
Quand tu peux t'acheter des paires à 395€ pour balader ton lien.
C'est ça le problème. Tu me dis à 70€, j'en achète 4 direct, tu vois.
Ouais, le bleu est pas mal.
Tu dois puer des pieds un peu dedans quand même.
Ah, ça doit ça, pas trop respirer.
Possible,
hein.
Ouais. Et ça doit être un matelassage pour l'été aussi, non ? Ça sort au mois d'avril. Là,
je me suis posé la question, quoi.
Sinon, bonjour la chaleur. Ouais,
c'est comme les hugs, hein. Les hugs, c'est confortable.
C'est moche. Oui, je suis d'accord. Ça me fait penser un peu à la collection. Je crois que c'était Moncler qui avait aussi fabriqué des pièces avec Adidas.
Ouais, mais d'ailleurs, il y a un modèle un peu fluffy comme ça qui est sorti chez Moncler. Donc, ouais, il y a une clientèle pour ça, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon. Ouais. C'est chaud. Hein.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que le designer Francesco Risso, qui lui est spécialiste du maximalisme, donc des grosses chaussures et des choses comme ça, qui est caractéristique de Marni, justement, c'est pour ça qu'ils sont en collab avec Oka, qui est aussi sur du, alors je sais pas si on peut dire du chunky, mais qui est sur de la grosse basket, et on va en parler dans quelques instants. Ça vous va pour Oka ?
Yes.
Ouais. Allez, là, c'est l'annonce qui va retourner la sphère sneakers. Ça sort samedi au prix de 180€. C'est une réédition exceptionnelle de la Air Max One 97 Sean Wotherspoon, qui est sortie pour le Air Max Day en 2016 ou 2017.
18.
Qui était la première, peut-être premier, ouais, 2018, qui était la première, un des premiers hybrides qu'on allait retrouver. Donc, c'est un upper, donc une pièce supérieure d'une Air Max 97, celle inspirée par le train ultra rapide du Japon, sur une semelle d'Air Max 1. Ça a une très très grosse cote, c'était très difficile à avoir. Et on retrouve la patte de Sean Wotherspoon avec ce dégradé un petit peu velours qui va du bas en haut sur une dominante belle sur le supérieur et du bleu ensuite. Alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre la réédition de Graal. Moi je reste pour, et si je pouvais la doubler celle-là, splendide pièce. Ouais. Pièce splendide avec un liner bleu ciel à l'intérieur, des scratchs, plein de lacets.
Magnifique. Ouais, ça reste l'une des paires iconiques là de ces je pense 10 dernières années, hein. Elle est juste magnifique. Déjà le fait de retrouver du velours, tu vois, sur une paire de chaussures, même si ASICS l'a fait, Runific aime bien travailler ça avec Kiss sur les ASICS, mais et ce qui est fou, c'est le mélange des couleurs, tu vois, sur la paire. Donc des fois tu te dis, quand tu choisis tes vêtements, t'oses pas tel ou tel matching parce que ça va faire bizarre, et
très
en fait il te claque un truc et tu dis putain, abuse.
Bonne chance.
Bonne chance, mais juste ça tip top fait. Quoi, magnifique.
Magnifique. Abby, tu veux réagir ?
Pour l'avoir vu déjà en vrai, elle est très très belle. Et en fait, la question c'est, est-ce qu'on devrait la ressortir ? Faut poser la question à ceux qui l'ont déjà.
Bah ouais, mais c'est le débat qu'on a depuis plusieurs semaines. Moi, je suis oui. Et tant pis si d'autres l'ont, et tant mieux si ça fait plaisir à certains autres. Franchement, toi, moi, je trouve ça cool. Ouais, mais là, je serais même content de la doubler.
Ah, hein. C'est ça. En plus, elle est belle, et ça ferait peut-être une occasion de la sortir. Mais...
Et de la mettre.
Et de la mettre, ça.
Exactement.
Et comme ça, garder la l'ancienne et la...
Tu me connais bien, mon fils. D'ailleurs, on embrasse, même les gens de Colmar nous écoutent. Et t'as le bonjour de Laurent qui t'écoute depuis Colmar. Tu peux aussi embrasser Laurent. Hein.
De quel Laurent parle ?
Bloom.
Ok, salut Laurent Bloom.
Ça reste dans la lignée. Tu veux réagir, Ghislain ?
Moi, j'aimerais bien qu'elle ressorte, effectivement, histoire que le recel descende un petit peu. Parce que là, 1100 euros pour une paire en 41...
Je pense que ça va un petit peu baisser d'ici samedi. Hein. Ouais.
Moi, personnellement, je la connaissais pas.
Tu connaissais pas ?
Et on en a parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, j'ai regardé un petit peu. Je trouvais le concept ouf. La réalisation, pareil. Et je crois qu'on s'en demandait la semaine dernière en plus s'ils allaient la ressortir.
Ouais, ben,
pas,
c'est sorti comme ça.
Et finalement, voilà. Et franchement, ouais, pareil comme toi, je pense que c'est très bien. Déjà, c'est une belle paire. Ça permet aux gens qui ne l'ont jamais eu de la voir. Et je serais presque motivé à la prendre si je n'avais pas les gros yeux sur la paire d'après.
Ah, ben, très bonne transition. C'est là. Alors, la paire d'après, elle se rééditera, etc.
Ah, mec, franchement, c'est incomparable.
Alors. Pas tout à fait celle-là. Il y a une autre qu'ils ont annoncée qui est prévue.
Qui est plus foncée ?
Non, c'est plus une collab en fait.
Ok. Eh ben, on parle de quoi ? On parle de la prochaine sortie qui a lieu le 4 avril au prix de 190 euros. C'est la réédition de la Air Max 95. Cette fois-ci, Big Bubble, coloris néon, qui est le premier coloris de la Air Max 95 qui est ressorti, qui est une basket incontournable dans l'esprit de la sneaker, c'est de chez Nike. Elle a la particularité d'avoir un gros renfort à l'avant, d'avoir une bulle d'air qui fasse quasiment l'entièreté de la semelle, avec des fenêtres à l'avant, et ça c'était rare, c'est la première fois je crois en 95 qu'on les voit, une grosse fenêtre à l'arrière et même dans le talon, et là ils ont poussé même la chose jusqu'à augmenter encore la taille de cette bulle comme elle aurait pu être et comme elle a eu lieu à l'origine avant qu'ils la réduisent de peur qu'elle marche pas. C'est exactement le même cas que pour la Air Max One hein, qui à la base était en Big Bubble. Tout le monde a dit ça risque de pas tenir, mais là on rend hommage au premier essai de Tinker Hatfield qui est le designer de cette basket. Et je trouve que la 95, alors moi j'en ai pas, Chris, je crois pas que t'es de 95.
Pas du tout.
Mais par contre, je trouve qu'il y a toute une génération qui porte énormément de 95. Ouais. Et peut-être les collabs Cortez aussi, qui ont vachement charmé les plus jeunes, ils sont pour quelque chose. Donc c'est la Néon qui ressort fin de semaine.
C'est ça. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai découvert ça aujourd'hui, qu'apparemment il y avait un petit magasin au Japon.
Oui,
qui les ont
vu dans la nuit et tu l'as envoyé ce matin.
Ouais, qui les avaient en avance et donc qui ont décidé de les vendre, mais a priori sans prévenir qui que ce soit. Ouais. Et on voit dans la vidéo qu'à 10h, il n'y a que 2-3 curieux qui
ça se voit dans leurs yeux.
Ils arrivent dans le magasin, ils voient le truc, ils disent mais c'est pas possible, c'est bien celle-là et tout. Et en fait, oui, c'est celle-là. Et au fur et à mesure des heures de la journée, on se rend compte que bouche à oreille, nanana, et fin de journée, il y a la queue comme si c'était la sortie de n'importe quel père, quoi.
C'est clair.
Ouais, la 95, je la vois souvent au lycée. Ouais, la dernière, en tout cas, j'avais un copain qui l'a porté.
Ouais, j'ai l'impression que ça plaît énormément aux jeunes.
Et ce que je voulais dire encore sur celle-là, c'est qu'apparemment, on en avait déjà parlé la première fois quand on parlait de l'émission avec les baskets dans les médias, les différents médias, et j'en avais parlé à cause du manga Yu-Gi-Oh! Où un des personnages les porte. Et là, ils ont annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils allaient la sortir en version Yu-Gi-Oh! Façon de parler, avec le nom Air Max Attack ou un truc comme ça, comme ils avaient dans le manga. C'est pour ça qu'elle m'intéresse d'autant plus, sachant que je ne l'avais jamais vu en vrai.
Ah, elle est jolie.
Chauve, la semaine dernière, avait une version de celle-là. Et c'est vrai que les avoir vus en vrai, je me suis dit, ah ouais, ok, j'aime bien.
Et il me semble qu'il y avait des dégradés aussi en bleu, ciel et en rose.
Le rose, je m'en souviens très bien.
Ouais. Ouais, c'est très joli. Est-ce que tu te rappelles, toi, Jacques, de la 95 ?
Oh, le visuel, oui, mais ouais. Bon, je connais pas l'histoire. Hein.
Non,
à l'époque, j'étais chez Adidas.
on regarde pas la concurrence.
On regarde la concurrence, mais bon, peut-être pas très, très en détail. Quoi. Ouais.
Mais c'était un carton. C'était un gros carton. Crois, hein. Il est 20h35, j'avais prévu une ASICS en collab avec APC, qui est une gel Kayano 14, qui est un modèle qui cartonne, qui avait un coloris bleu, des beaux matériaux, mais je vous propose qu'on passe dessus pour parler du thème de la soirée, Oka, qui est la marque Oka One One, qui a une ascension, à mon sens, assez fulgurante. Et c'est une marque qui a peut-être un peu changé, fait évoluer l'industrie de la basket, avec des origines françaises. J'ai découvert en travaillant dessus, et aujourd'hui, c'est bien sûr une explosion mondiale, grâce à des innovations. Je ne suis pas sûr que ce soit une innovation, pour moi, c'est plutôt un parti pris technique qu'a décidé de faire Oka. On va zoomer dessus, on va parler de son histoire, de ses modèles iconiques, de la technologie, et pourquoi pas, est-ce qu'elle a un rôle dans la culture sneakers? Pas sûr, mais dans la performance, oui. L'origine de Oka, ça a été fondé en 2009, ça reste une marque assez jeune, par Jean-Luc Diard et Nicolas Mermoud, deux Français issus d'une marque très connue, on embrasse Kevan, issu de chez Salomon. Et les deux étaient spécialistes dans le trail running, et leur idée de départ a été, attendez que je tourne mon script dans le bon sens, a été de créer une chaussure avec un amorti très important, ultra amorti, qui va faciliter la course en descente et réduire la fatigue musculaire. L'UTMB, donc l'Ultimate Trail du Mont Blanc, cartonne depuis pas mal d'années. On en voit de plus en plus des courses comme ça. Et c'est vrai qu'en trail, c'est assez rare de courir sans dénivelé. Donc forcément, ça tire dans les cuisses quand tu montes, mais quand tu descends, c'est assez compliqué, et je pense que peut-être Jacques pourra nous répondre là-dessus. C'est un vrai défi technique d'adapter une chaussure à un chemin, un sentier en pente.
Oui, c'est sûr, mais bon, ce qui est intéressant chez Oka, c'est que l'idée vient non pas d'études poussées en laboratoire, etc. L'idée vient de la pratique du sport, c'est-à-dire que Jean-Luc Diard et son collègue avaient fait les essais et voulaient absolument trouver une solution pour faciliter les descentes, par exemple. Et donc, au fur et à mesure, pas après pas, ils ont commencé à augmenter l'épaisseur de la semelle et aussi au niveau géométrie de la midsole, etc. Et donc, sont arrivés à trouver la solution pour amener quand même un avantage conséquent au niveau confort, au niveau absorption des chocs dans les descentes. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer Jean-Luc Diard à l'époque quand Salomon faisait partie d'Adidas. Et Jean-Luc Diard, c'est vraiment la tête pensante, c'était le créatif toutes les secondes. C'était vraiment un type bien. Et ensuite aussi, j'ai eu l'occasion aussi d'aller voir le stand, le premier stand je me souviens plus si ça s'appelait déjà Oka à l'époque, mais à ISPO. ISPO, donc la grande foire du sport à Munich. Et je me suis fait expliquer un peu tout leur concept, et c'était vraiment intéressant, quoi.
Ouais, et là, quand j'ai lu le descriptif d'Oka, j'ai beaucoup pensé à toi et à la façon dont t'accompagnes le sportif pour proposer une amélioration dans sa pratique. Et là, c'est exactement ce que tu dis, c'est de ce besoin, de ce manque qu'ils avaient remarqué, ils ont cherché, ils ont développé. Donc leur idée, c'est une semelle surdimensionnée. Et justement, moi, c'est le petit zoom que je voulais faire. Ils ont relancé cette tendance du maximalisme, parce que jusqu'en 2012, tu vois, moi je me rappelle des sorties des Flyknit Racer, des Flyknit Trainer qui étaient des Flyknit Racer et Trainer qui étaient des baskets quasiment une seconde peau avec le Flyknit.
Très effilé.
Et très fine, très très légère. Et c'est une tendance qui avait beaucoup en running. Il y avait même des gens qui couraient avec des. Les chaussures à 5 orteils,
pour les 5 toes.
Ouais, merci.
Ouais, mais c'est comme tu dis, on en parlait tout à l'heure avec Jacques en marché, c'était une tendance. Et quand tu reprends un peu l'histoire de Oka, il y a un mec qui s'appelle Kylian Jornet, qui est un peu le Lionel Messi ou le Cristiano Ronaldo de la course
du trail.
Et effectivement, lui étant très jeune et toutes les personnes qui couraient à cette époque couraient avec des chaussures très minimalistes, proches du sol. Et d'ailleurs, lui, Kylian Jornet, avait poussé le minimalisme hyper loin. C'est-à-dire que sur l'Ultra Trail, par exemple, c'était l'un des seuls coureurs à ne pas courir avec un sac à dos, mais à courir avec une banane.
Ok. Ouais.
Justement pour alléger son corps, pour être encore plus.
J'en ai vu des.
Finalement plus léger et du coup là le premier d'Ultra Trail qu'il a gagné, finalement c'est que le lendemain que sa victoire a été annoncée, tout simplement parce qu'il y a eu un recours justement du fait que il courait pas comme tout le monde. Il courait de manière ultra minimaliste. Donc en fait il y a eu une longue période qui était comme ça. Et moi je l'ai connu aussi chez Adidas. Et ensuite bah justement il y a eu des mecs comme rappelle-moi son prénom, Jean-Luc pardon, qui a fait des recherches à l'encontre de ce que certains journalistes ou certains spécialistes du running disaient sur ces courses, cette façon de courir minimaliste. Et en fait lui il a fait l'inverse, il a cherché à comprendre et à savoir, et finalement il s'est un peu inspiré de ce qu'il connaissait chez Salomon et du sport de glisse comme la montagne par exemple, parce que finalement quand tu fais du trail tu cours en montagne. En montagne t'as une descente et
une montée.
Et en fait dans tous les sports le plus agréable c'est la descente, sauf pour le running.
Oui.
Et du coup, il s'est dit que tiens, mais même au ski, en fait, il existait une tendance à avoir des skis un peu plus larges.
Ouais.
Donc, il y a plein de sports comme ça qu'il a étudié où il y avait des produits qui étaient un peu plus larges. Et il s'est inspiré de ça. Il s'est dit, en fait, finalement, s'il y a des produits qui sont plus larges qui existent, et en plus, dans le running et dans le trail, ce qui est le plus dur finalement, c'est la descente. Pourquoi pas adapter les chaussures de running à cette problématique-là, quoi.
Ouais, donc c'est une grosse semelle qui apporte de la stabilité, du confort et la réduction des impacts. En 2013, Hoka est racheté par Deckers Brands, c'est le propriétaire de UGG, UGG, de Teva et de Sanku, ce qui a permis un peu d'accélérer l'expansion de la marque. Mais j'ai envie, et puis on a Jacques, et je vois qu'il a même des notes, de parler un peu de cette philosophie d'Hoka avec la nouvelle approche du running où ils l'ont révolutionné avec trois grands principes majeurs. Le running, c'est un amorti maximal avec une absorption des chocs importante grâce à une semelle épaisse en EVA comme la basket que tu portes aujourd'hui Jacques, et aussi cette tendance à avoir un faible drop. Et c'est vrai que ça je l'ai découvert parce que quand on regarde la basket on se rend pas compte qu'elle est quasiment à la même hauteur en fait, devant et derrière il y a que 4 à 5 mm de différence, alors que sur une ultra boost, sur pas mal de baskets de running, on avait tendance un peu à relever le talon un peu plus que la pointe pour permettre vraiment d'attaquer sur le talon, et eux ont fait le choix d'avoir une basket assez symétrique en termes de hauteur à l'avant et à l'arrière, et le design a été pensé pour la stabilité. Même si la semelle est massive, on aura au cas assure une bonne tenue du pied et une propulsion fluide. Ça a séduit beaucoup plein d'athlètes de haut niveau, et aujourd'hui il y a pas mal de coureurs qui courent avec. Il y a plusieurs technologies dans les baskets, le Meta Rocker, et là c'est le principe de chez Hoka. Moi je trouve que c'est un peu une semelle banane.
Oui, c'est ça, surtout avec le relevé de boue qu'il y a. Donc
ouais.
Ça donne cet effet bascule et qui facilite comme on dit en anglais, le ride, c'est-à-dire la transition arrière vers l'avant, quoi.
Entre le talon et la pointe. T'as une autre techno qui est l'Active Foot Farm, qui est un système qui va envelopper le pied pour un meilleur maintien, une meilleure stabilité. Et t'as la technologie Profly, qui est une mousse bidensité pour un bon compromis entre un amorti et un dynamisme au niveau du talon. Donc on va pouvoir, dans l'EVA, créer plus ou moins de rigidité dans la basket. Jacques, je suis sûr que tu as préparé des notes, je les vois. Tu veux les partager avec nous ?
Oui, mais justement, moi, mon approche est un peu différente. C'est-à-dire que je ne regarde pas la chaussure au niveau de ses performances, mais je regarde la chaussure au niveau du visuel. Et je trouve que Hoka, aussi bien que On, on fait cette approche que moi j'appelle un design sensoriel. Par rapport, quand on parle de performance, j'ai l'épaisseur de la midsole, j'ai la barre de torsion, j'ai encore autre chose, qui pour moi est un design intellectuel, alors que là c'est sensoriel. C'est-à-dire qu'il y a tellement de chaussures de running sur le marché, et vous avez eu d'un coup ces deux marques qui sont apparues. Une marque avec des semelles très épaisses, et l'autre marque avec des trous dans la midsole. Et je suis sûr que les consommateurs en rentrant dans le magasin sont allés vers ces marques-là. Parce que le côté visuel, le appealing visuel était très important. Et ensuite, ça permet aussi aux consommateurs de laisser aller sa fantaisie. Parce que qui dit semelle épaisse, le consommateur forcément, on va dire, je dois avoir plus d'amorti, puisque c'est plus épais. Trou dans la semelle, il y a une absorption de choc. Et c'est ça qui a fait que ces deux marques, pour moi, aujourd'hui, naturellement, ne vont pas surpasser Nike, ne vont pas surpasser Adidas ou Asics, etc., parce qu'ils ne sont pas aussi forts. Mais elles ont pris des grandes parts de marché de ce côté-là. Le côté performance, il y est. Le côté aussi, vous avez beaucoup de gens qui portent les chaussures dans la rue.
D'ailleurs, c'est ça.
Ouais. Et c'est le côté qui fait que je suis différent de Nike, je suis différent d'Adidas, etc. J'ai amené quelque chose. Et moi, je dis toujours un peu, il y a le côté innovation, mais moi, j'ai toujours ajouté un côté, en anglais, on dit disruptive. C'est-à-dire, tu vas contre ce qui se fait. Et aussi, tu as aussi le côté empathie. Quand tu fais du design, il faut que tu te mettes à la place du consommateur qui éventuellement va acheter ton produit. Donc c'est de l'empathie. C'est ces deux choses que je trouve que ces gens ont réussi à combiner, qu'ils l'aient fait exprès ou non. Par la force des choses, ont créé cette chaussure, ont donné un nouveau look. Parce qu'ils voulaient la performance.
C'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, quand tu regardes un peu et que tu lis l'histoire de Hoka, ils ont voulu effectivement aller à l'encontre d'eux et ils n'ont pas changé leur ligne directrice. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont galéré en fait à imposer leur paire sur le marché du running, tout simplement parce que justement le courant, il était sur du minimalisme. Eux, ils arrivaient avec une grosse chaussure. Donc ils ont commencé à vraiment à tisser des liens avec le monde un peu du running et ils ont commencé à graviter autour de petites courses. Tu vois, ils se sont pas allés se positionner sur le marathon de New York ou machin. Ils sont vraiment allés sur des petites courses locales petit à petit et c'est grâce aussi à ce qui s'est passé sur le marché américain que finalement la marque a explosé quoi. Et après il y a une histoire que je voulais raconter aussi qui fait penser un peu à l'histoire d'Adidas et le miracle de Berne. Bon, pour ceux qui connaissent pas le miracle de Berne, mais effectivement Coupe du monde de football en Suisse, donc à Berne dans les années 50. Finale entre la Hongrie et l'Allemagne. La Hongrie, bon, c'est un
peu. J'ai récupéré les avant-propos de ces matchs-là. Mon grand-père était à cette Coupe du Monde et j'ai les petits fascicules qu'il distribuait pendant le match.
Et du coup, la Hongrie, c'est un peu le Real de Madrid de l'époque, donc hyper favorite. D'autant plus que la Hongrie avait gagné en phase de poule contre l'Allemagne. Ils se rencontrent en finale et il se trouve que c'est l'Allemagne qui va gagner cette finale.
Qui n'était pas du tout favorite.
Et. Effectivement, terrain glissant, pluie, boue, etc. Et l'équipe d'Allemagne, en fait, vont changer de crampons à la mi-temps pour chausser ces fameux crampons vissés qui avaient été fabriqués par Adolf Dassler. Donc c'est pour ça que on dit que l'Allemagne a gagné cette Coupe du Monde et on appelle ça le miracle de Berne. Et en fait, il y a aussi le miracle de Hoka, puisqu'il y a un coureur qui est toujours sponsorisé chez Hoka, qui a fait un ultra trail et qui, à la moitié de l'ultra trail, décide de changer de chaussure. Alors qu'il n'était pas sponsorisé par Hoka, il décide de changer de chaussure, de porter une chaussure qui est un prototype d'Hoka. Et en fait, le mec, il passe d'une place éclatée et il finit deuxième de cette ultra trail, quoi.
Là, le coup de com, même et si donc, un coup de com exprès.
Exact.
On sait pas.
Je pense que Jacques pourra nous dire l'apport d'une technologie sur une paire de chaussures doit normalement aider un athlète.
C'est sûr, oui.
Tu vois,
c'est l'athlète qui va décider, qui va dire à la fin de la course, oui. Ça m'a apporté quelque chose, exactement. Ça m'a rien apporté.
Et donc il fait ce choix et au final le mec arrive deuxième. Et tu vois, c'est ces petits concours de circonstances là qui fait que des fois les marques elles explosent parce qu'il y a ce genre d'histoire. Quoi.
Et l'impact de l'athlète, quelquefois, là, puisque tu as commencé à parler football, quand Adidas a commencé le concept Predator. J'étais dans l'équipe, je suis parti les premiers essais qu'on a fait, on est parti à Munich et justement on a fait tester les premières chaussures que l'inventeur de Predator avait ramené chez Adidas et je me souviens Rummenigge, Beckenbauer et Breitner étaient ça. On avait testé les chaussures, on jouait pendant une dizaine de minutes, ils neigeaient, etc. Mais après, quand ils avaient fini, ils sont revenus, ils ont dit on sait pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose. Vous avez ça avec un athlète qui vous dit ça, même s'il n'est pas précis, même s'il ne dit pas,
mais
ça suffit largement pour dire il y a quelque chose à faire.
On y va. Tu peux rappeler justement l'évolution sur cette Predator? De l'époque, c'était des crampons plus longs.
C'était le joueur de Liverpool, Greg Johnson, qui l'avait ramené son sac plein de chaussures de foot, qui étaient comme des entièrement en caoutchouc. Qu'il avait fait entièrement la chaussure entièrement en caoutchouc et avec des, en anglais on appelle ça des fins, comme des écailles sur le dessus de la chaussure. Oui. Et donc on avait fait les premiers essais et ça effectivement ça a influencé la trajectoire du ballon.
Ouais, l'idée c'était de rajouter en fait une espèce de couche en caoutchouc sur le cuir avec des reliefs et c'est en fait le contact du caoutchouc sur le cuir du ballon qui fait que tu vas avoir un effet et plus de précision sur
mais les écailles, c'était pas fait n'importe comment.
Exactement.
Elles avaient une certaine épaisseur, une certaine hauteur, des angles, et c'était très précis. Donc, j'ai encore des dessins techniques. C'était un peu pointu, quoi, comme recherche. Ouais, on avait même fait ce qu'on appelle un robotic leg, c'est-à-dire on avait créé comme un robot et on mettait les chaussures pour les tester et le robot frappait la balle. Et comme ça, on pouvait voir un peu la trajectoire du ballon.
Et en parlant de robot, c'est presque un homme robot qui a rendu cette chaussure célèbre puisqu'il s'agissait de Ronald Koeman, qui était le défenseur central du FC Barcelone, qui avait une frappe de mule. Et quand le mec il frappait le ballon, c'était incroyable, quoi.
Un boulet de canon. Et d'ailleurs, je crois que l'avant-dernier match des Bleus, il glissait beaucoup. On leur a demandé de changer les crampons à la mi-temps contre la Croatie. Le terrain était un petit peu pourri. Parce qu'aujourd'hui, il y a des crampons un peu en ligne. Je sais pas comment on les appelle.
C'est fini, ça. On est revenu à des crampons soit ronds, soit plutôt en forme de triangle pour gagner en traction. Donc, mais effectivement, les tiges, ces fameuses barres,
des lames,
on appelait ça des lames d'ailleurs, donc c'est fini, c'est plus. Mais tu vois, c'est tout ça encore pour dire que dans le football, il y a eu des modes. Donc, on a souvent joué avec des chaussures basses. Ensuite, Nike est arrivé avec des chaussures un peu montantes, sans lacets, donc ça a été une mode. Pour le basketball, c'est pareil. Avant, toutes les chaussures de basketball étaient hautes. Aujourd'hui, quasiment tout le monde joue en low. Et en running, c'est pareil. On a longtemps couru avec des chaussures minimalistes, sauf qu'aujourd'hui, on court avec des chaussures très épaisses. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une mode. Et malheureusement, j'ai presque l'impression qu'il y a aussi une forme d'influence.
Je pense que déjà, les marques essayent eux-mêmes de créer une espèce de mode pour imposer un peu leur nouveau produit ou quoi, pour dire on a toujours fait ça, allez, pour que ça marche, on fait un truc différent.
Tu vois, j'en suis sûr qu'il y a 2-3 mecs du running là qui disent demain ou après-demain, bon les gars, on a fait des études, on a retesté. Je pense que le minimalisme, c'est ce qu'il y a de mieux.
Voilà.
Bim, dans 6 mois, on se retrouve avec le minimalisme.
Je vous recommande un livre qui existe en français, s'appelle Kixologie, qui est une étude d'un gars qui va interviewer des coureurs et qui fait vraiment la distinction entre minimaliste et maximaliste sur le running. On revient à Hoka avec quelques caractéristiques de chaussures. Donc t'as des modèles pour la route, pour le trail, pour la dynamique et pour la stabilité. La Glyphon 9 pour la route, la Bondi 8, celle qui est en collab dont on a parlé tout à l'heure, qui est pour la route, la Speed Goat qui est pour le trail, la March 6 pour le dynamique et la Rai 7 pour la stabilité, et on voit qu'à chaque fois on est toujours sur un drop entre 5 et 4 mm. Et ce que je trouve, et ce que tu disais Jacques, moi je connais beaucoup moins les modèles de Hoka, mais sur tous leurs modèles, quand bien même ils aient un peu une utilisation différente, on retrouvera toujours cette philosophie Hoka, où finalement même de loin tu la reconnais par la gueule qu'elle a quand tu la portes.
Ouais, je pense que c'est leur signature.
En même temps, vu la taille du logo.
Ouais, tu peux pas la louper. Hein. Le Hoka, il est vraiment écrit dessus. Ils se sont pas dit je mets un swoosh ou je mets un trefoil ou quoi. J'écris Hoka, comme ça tout le monde sait que c'est une Hoka. Et après, effectivement, à la taille de la semelle, tu vois que c'est une Hoka, quoi.
Ça me fait penser juste une question. Je sais pas si quelqu'un s'est renseigné là-dessus. Quelqu'un sait ce que ça veut dire Hoka exactement? Parce que je crois que c'est un mot.
C'est un acronyme.
L'autre langue.
Non, c'est
pas un truc comme ça.
C'est un mot qui vient de la Polynésie,
Je crois que j'avais vu ça.
Et qui veut dire. Putain, je l'avais en tête.
Parce que je sais que je l'ai vu, je trouvais ça super intéressant et je m'en souviens plus.
Mais on va le retrouver.
On va le retrouver. Jacques, t'avais noté deux, trois autres choses, il nous reste 3 minutes.
Non, mais si je commence à parler de design.
Un petit peu. Nos auditeurs, ils sont là pour ça.
Bah oui,
du neurodesign.
On veut savoir.
Du neurodesign.
Non, non, c'est un peu ce que je disais avant. C'est-à-dire que je crois qu'on peut mettre beaucoup de choses dans une chaussure de running, par exemple, à l'intérieur, des barres de torsion, etc., etc. Mais pour moi, ce qui compte, c'est le visuel, le shape de la chaussure. Et c'est ce que ces deux marques comme On et Oka ont réussi. Quoi.
Donc Oka qui veut dire en maori planer sur terre.
Mmh. Donc forcément, semelle nuage, assez épaisse.
Ouais. Et puis ça reflète bien finalement ce pourquoi Oka existait, en l'occurrence le trail, la montagne. Donc on est un peu sur les hauteurs. Donc planer sur terre, effectivement, il fallait être proche du sol. Quoi. Donc,
Ce qui est important dans les chaussures, même en regardant les photos, c'est ce que j'ai dit avant, le relevé de l'avant.
Mm-hmm.
Et ça, c'est quelque chose d'important dans la course à pied, parce que finalement, ça facilite encore l'impulsion que vous donnez en fin de course.
Ouais, et ça permet vraiment à la foulée de bien se détendre. Et en descente, ça doit apporter un vrai plus, parce que justement, le degré de la pente, finalement, si tu as une basket trop plate, tu risques de moins bien atterrir. Voilà, mes amis, 20h56, dans quelques instants, place à Planet Racing. Ils vont débriefer le magnifique match de ce week-end. Je suis content d'avoir creusé un petit peu la marque Oka. Et je propose que d'ici fin de l'année, on se fasse aussi un zoom sur On, qui est une marque dont on parle très peu. Jacques reviendra sans doute en parler, parce que depuis longtemps, hein, quand on en discute, c'est une basket qui marque l'œil. Et je trouve que tu as très bien expliqué quand le consommateur, et c'est la conclusion qu'on peut donner pour Oka, comprend ce qu'on a voulu faire et pourquoi on l'a fait juste sur un visuel et que ça donne envie d'acheter, c'est que le pari est gagné pour la marque et le designer. Ouais.
Et il faut être honnête, hein, ce qui se passe sur le running aujourd'hui sur le marché running, pour moi ce sont les deux marques qui amènent quelque chose.
Exactement.
Et tout le monde copie, parce que tout le monde fait des semelles épaisses maintenant.
Ouais.
On est là, que ce soit Nike ou que ce soit Adidas.
Adizero, Agravic, on est sur des énormes.
Et finalement, tous ces gens font des recherches au niveau design pour donner un autre look à l'intercalaire, à la midsole. Alors que Oka ou On, ils sont partis d'une idée et ils gardent toujours la même idée. Quoi.
Ouais.
Vas-y.
J'allais ouvrir finalement, est-ce qu'il ne faut pas être un outsider, un challenger pour tenter des trucs par rapport à des grosses marques?
Encore une fois, j'ai regardé une vidéo sur l'histoire d'Oka, je pense qu'ils ont eu du flair, ils ont eu beaucoup de chance aussi.
Ouais, il faut être là au bon moment.
Pour combattre les mastodontes du game, c'est un peu compliqué. Quoi.
Après, le Jean-Luc, là, depuis le départ, hein, depuis qu'il est stagiaire chez... Salomon, il était un peu, c'était un peu un génie du marketing, et finalement, voilà, c'est une idée de génie, et comme tout génie, il faut avoir un peu de folie, quoi. Donc,
mais en tout cas, si vous avez des idées pour une marque, des sneakers ou quoi que ce soit, ne vous découragez pas, lancez-vous, et peut-être qu'on parlera de vous dans la prochaine émission.
Et on pourra vous plugger avec des bons designers.
Par contre, n'allez pas nous insulter, hein, évidemment, que la Air Max One 97 sur Witherspoon.
Regardez la date. Voilà, messieurs, dames, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Sneak On Air. On était ravis d'être avec vous. Rendez-vous 20h-21h mardi prochain. C'était Sneakers Empire
dans tes oreilles. Lifts the soul, this mental automatic weapon keeps me in control. Never fold, I score like water in order to let these empties know I slaughter. So time's getting shorter, it sorta limits ya. But to me, the sky's the limit ya. No, I diminish ya, to dust takes sinister. Bust one rhyme that's like a voodoo hex. Connect complex styles to my vast high-tech flex. Cause when there's an MC like me who's in there like swimwear, don't despite me, cause all the hoes like me mashing the Nikes. I done seen niggas on TV, dissing nigga deals. Now I got one question, nigga, how does it feel? Check your game, but I ain't even saying no name. Proclaim lyricist, dissing us for fortune and fame. Did I do something to you? Did we serve your homies? Cause y'all on TV rapping like you knew me, you know me, but you don't really know me. That motherfucker nigga from the DPG, the KURUPT, I'm too smooth.
Motherfucker.